L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
André Panzer, d'enfant traqué à enfant caché, retrouvait la suite de son récit. Remis à un passeur pour justement passer la frontière, André est en Suisse. Ce témoignage a été réalisé à l'Université de Strasbourg par les étudiants juifs de France de Strasbourg avec la collaboration du Mémorial de la Shoah.
À Genève, on nous a déposé dans un centre d'accueil qui était installé dans une école. Certaines pièces étaient occupées par des policiers qui, le lendemain, nous ont interrogés. Notre état civil, nom, prénom, etc. Pourquoi on venait et qui nous avait amenés. Naturellement, on savait pas du tout qui étaient les gens qui, en ce qui me concerne, depuis Nice, s'étaient occupés de moi, encore aujourd'hui, hein, je ne sais toujours pas qui c'est. J'ai appris il y a une quinzaine d'années le nom de la jeune femme qui m'a reçue sur le quai de la gare d'Annecy. Je suis resté 2, peut-être 3 jours dans ce centre d'accueil et ensuite j'ai été séparé des autres enfants et emmené dans un autre camp qui lui était installé dans un stade. Ils avaient construit des baraquements. Là, moi, j'avais mal à l'oreille et ma mère m'avait dit, quand tu vois que tu vas rester quelque part, dis que tu as mal à l'oreille. Un des baraquements dans ce camp était une infirmerie, donc je suis allé voir l'infirmière. Elle m'a regardé, elle a dit, demain, je t'emmène à l'hôpital, on va voir le médecin. Ils m'ont soigné, j'avais une otite, j'avais des furoncles. Il faut dire que l'hygiène, depuis quelque temps, n'était pas très, très bonne. On m'a soigné et normalement j'aurais pu retourner au camp. Mais je ne sais pas si c'est l'administration du camp, si ce sont les médecins de l'hôpital ou la direction de l'hôpital. Ils ont décidé de me garder. On m'a désinfecté complètement, du haut en bas, et on m'a mis dans une chambre où se trouvait déjà un autre malade dont la maman venait rendre visite tous les jours. Puis au bout de 2 jours, voyant que personne venait me voir, elle a demandé à son fils comment ça se fait, personne vient le voir, et il lui a expliqué. J'étais réfugié, que mes parents étaient en France. Alors, de ce jour-là, ce qu'elle a porté à son fils, en friandises, en lecture, etc., elle me l'a porté en double à moi. Il s'est avéré que cette dame était secrétaire à la Croix-Rouge. Le siège de la Croix-Rouge internationale étant à Genève, elle travaillait là. Et elle m'a demandé si je savais où étaient mes parents. Ma mère, en quittant Nice, m'avait donné un papier sur lequel il y avait le nom d'une rue et le nom d'une ville. Je lui ai dit, voilà, c'est la seule chose que j'ai. Et cette dame, sur papier en tête de la Croix-Rouge, dans une enveloppe de la Croix-Rouge, a écrit à cette adresse qui est arrivée chez une couturière dans la banlieue de Lyon. Et cette couturière cachait ma mère. C'est-à-dire que ma mère travaillait chez la couturière, logeait et était nourrie, mais ne touchait pas de salaire. Et elle est restée là jusqu'à la fin de la guerre. Ce qui a permis, par l'intermédiaire de cette dame de la Croix-Rouge, ma mère a répondu dans une lettre adressée à la Croix-Rouge de Genève. Donc ma mère a reçu cette lettre, hein, elle a répondu à la lettre, la dame de la Croix-Rouge, alors que moi j'avais quitté les camps après l'hôpital. On m'avait ramené dans un camp et une assistante sociale m'a dit des gens très gentils qui ont demandé à recevoir un petit réfugié étranger. On m'a mis une grande étiquette autour du cou, avec mon nom, etc. Et surtout l'adresse où je devais aller. Et l'assistante sociale m'a emmené à la gare de Genève. Elle m'a confié à des voyageurs en leur disant là où elle devait me faire descendre. Là, j'ai été recueilli par une dame qui, voyant mon étiquette, a su que c'était moi qu'elle attendait. Quand elle m'a vu, j'ai oublié de vous dire que quand on a quitté Nice, l'organisation a dit surtout ne donnez pas de bagages aux enfants, pas de valise, pas de sac à dos, pas de musette, rien. Il faut qu'ils soient en mesure de courir vite au cas où ils seraient poursuivis. Donc j'avais que les vêtements que j'avais sur moi depuis plus de 2 mois déjà. Et lorsque je suis arrivé et que la dame m'a vu, elle m'a dit « Mais tu sais, ici c'est la montagne, c'est bientôt l'hiver, il va faire froid. Est-ce que tu as d'autres vêtements, d'autres chaussures ?» Non. Bon, alors on est sorti de la gare et avant même d'aller chez elle, elle s'est arrêtée dans un magasin pour m'acheter des chaussures de montagne. À l'époque, on avait des chaussures avec des semelles de bois et puis un genre de carton bouilli pour remplacer le cuir du dessus. Et puis, on est arrivé chez elle. Le soir, son mari est entré du travail. On a mangé. Pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre pour moi tout seul. Donc, le lendemain matin, cette dame qui m'a recueilli a fait venir les enfants du voisinage pour que je puisse être avec des enfants de mon âge. Le problème, c'est qu'il habitait dans le canton de Zurich, et le canton où on parle l'allemand, le suisse alémanique, et où on apprend l'allemand littéraire en classe. Et pour parler avec les autres enfants, c'était pas facile. Il a fallu qu'on parle avec les mains, qu'on fasse des dessins. Mais il se trouve que quand on a 8 ans, on arrive rapidement à se comprendre entre enfants. Petit à petit, ils m'ont appris à faire du ski, à faire de la luge. Une vie d'enfant normal jusqu'à un mois et demi ou 2 mois. Puis au bout de 2 mois, je me débrouillais suffisamment en allemand que la dame qui m'a recueilli et son mari m'avaient dit, écoute, si tu veux, au lieu de nous dire madame et monsieur, puis de nous dire vous, tu peux nous appeler tante et oncle. Et je sentais que je leur étais redevable. Depuis ce jour-là, je les appelle tante et oncle. Et elle m'a inscrit à l'école. L'institutrice de la classe où j'ai été me gardait le soir après les cours avec un grand livre d'images pour m'apprendre le vocabulaire. Puis au bout d'un certain temps, j'étais, je dirais, suffisamment remis à niveau pour pouvoir suivre la classe. Et j'ai donc été scolarisé pendant 2 ans, là-bas jusqu'à la fin de la guerre. En 1945, à la fin de la guerre, je suis rentré en France. Ma mère, à nouveau, m'a inscrit à l'école. Mon père, lui, qui avait attrapé la tuberculose dans ce camp de travail, est mort tout de suite après la fin de la guerre. Il a vu la libération, mais il est mort très peu de temps après. Donc, ma mère m'a inscrit à l'école et pendant les vacances scolaires, les grandes vacances d'été, elle me renvoyait chez les gens qui m'avaient recueilli en Suisse. Et je suis resté en relation avec eux jusqu'à leur décès. Et c'était une famille protestante qui m'a soumis la Bible protestante en me disant « Tous les matins, t'as qu'à lire un certain nombre de versets. » Ce qui fait que finalement, je connais mieux la Bible protestante que la Torah, la Bible hébraïque. Ce couple n'a pas eu d'enfants. Et lorsque mon oncle est mort, il y a 12 ans maintenant, j'ai eu le privilège, si on peut dire, de faire son oraison funèbre au temple, en Suisse allemand, devant toute leur famille, et de l'accompagner au cimetière. Je suis resté en relation avec les différentes familles ou leurs descendants par la suite, des gens que j'ai croisés pendant toute cette guerre. Je vous remercie pour votre écoute.
Cette interview est disponible en podcast sur notre site www.radiojudaica-strasbourg.fr. Vous retrouvez également la première partie sur le site de la radio.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.